fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami.
RFI.
Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri.
Grand reportage.
En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis.
Georges Brassens aurait eu 100 ans ce mois d'octobre. Un siècle plus tard, les chansons qu'il a écrites ont fait le tour du monde et sont fredonnées par plusieurs générations. C'est à Sète, dans le sud de la France, à ville natale, que les commémorations résonnent le plus fort. De quoi découvrir ou redécouvrir les nombreuses facettes de son œuvre. À Sète, sur les traces de Georges Brassens, un grand reportage d'Edmond Sadaka.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Le 22 octobre, il est rentré dans l'histoire en fait, puisqu'on a fêté les 100 ans de sa naissance. Voilà, c'est vraiment le début d'une nouvelle grande histoire de Brassens à Sète. Et aujourd'hui, il est entré dans le Panthéon. Il était évidemment au même niveau que Paul Valéry, que Jean Villard. Il fait partie du Panthéon, c'est toi.
Tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon, si par hasard, sur le pont des arts.
Bernard Longeon, auteur de plusieurs ouvrages sur Georges Brassens, dont il est l'un des meilleurs spécialistes. Sa librairie dans le centre-ville de Sète regorge de trésors, des livres anciens par milliers, des disques vinyles, des affiches. C'est à lui qu'a été confiée la programmation des événements du centenaire, expositions, conférences et bien sûr beaucoup de concerts où se côtoient des styles très variés.
L'idée, c'était de marier des gens qui avaient repris Brassens lors de la première génération, et puis la deuxième, et puis la troisième. On a des rappeurs. À chaque fois qu'un jeune vient chanter, il a deux ou trois chansons de Brassens pour rendre hommage.
Il y avait des temps et des temps que je ne m'étais pas servi de mes dents, que je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. Ni à l'emploi par quatre chemins.
À quelques encablures de la librairie de Bernard Longeon, sur le quai du Maroc, un bateau phare rouge est amarré et sur sa coque un portrait géant de Brassens. C'est ici, sur ce bateau rebaptisé le Rock'n'Roll, que se trouve l'épicentre des commémorations.
C'est vrai que ça peut surprendre un bateau phare pour célébrer un centenaire.
Jeanne Corporon, adjointe à la culture à la mairie de Sète.
Il faut dire que nous à Sète, on a un musée Brassens, c'est l'espace Brassens. Il existait avant le centenaire, il va continuer à exister. Donc pour marquer les esprits pour le centenaire, ça nous a paru logique de faire quelque chose de différent, pour que les gens se souviennent. Un bateau phare, pourquoi? Parce que Brassens, quand il était jeune, il avait un petit bateau, et il traversait l'étang, et il allait sur le phare de Rock'n'Roll, il y avait un rocher au milieu de l'étang, il s'amarrait, et puis il pêchait des coquillages, il plongeait, il s'amusait avec ses copains.
Jeanne Corporon possède une double casquette aujourd'hui, puisque, outre ses fonctions à la mairie, elle est aussi l'une des rares personnes à avoir bien connu le chanteur alors qu'elle était enfant.
J'ai côtoyé Georges Brassens du fait de l'amitié de mon père, Henri Delpont et Georges, puisqu'ils se sont connus à l'école. Ils avaient à peu près 5-6 ans et ils sont restés amis jusqu'à la fin de leur vie. Mon père est parti un an avant Georges Brassens, en décembre 80. Ils sont restés très intimes.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Pour décorer l'intérieur de ce bateau, le Rock'n'Roll, c'est la commissaire d'exposition Clémentine Douroudil qui a été sollicitée. Auteur de plusieurs livres sur Brassens, elle a voulu aller au plus près du quotidien de l'artiste avec des photos et des films, souvent inédits, et aussi des entretiens d'archives dans lesquels le chanteur-poète se confie.
C'était une affaire de famille, la chanson. Mais tout le monde chantait, tout le monde aimait beaucoup la chanson. Mon père, ma mère, ma sœur, mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde alors forcément.
On a voulu faire un lieu à l'image de Brassens. On a bâti une pièce qui est comme une pièce de travail, sa pièce où il écrivait, où il faisait ses chansons, voilà, qui est sur le pont du Rock'n'Roll. Il y a en dessous un cabaret, comme à les nuages un peu du cabaret de Patachou, où on a mis des affiches, des concerts un peu partout. Il y a Brassens qui te tape sur l'épaule, quoi.
Ces commémorations en grande pompe de Brassens qui ont débuté au mois de juin dernier ont lieu parfois sous l'œil des caméras de télévision. De grandes vedettes comme Francis Cabrel, Carla Bruni ou Alain Souchon ont fait le déplacement de Sète pour les besoins d'une grande émission de télévision. Alors que pensent les Sétois de ces célébrations très médiatisées ? Les avis sont partagés, si l'on en juge par ces quelques réactions recueillies sur le marché de la ville.
Je trouve ça très bien. Ouais. Très très bien. Oui, il y a beaucoup de manifestations à droite à gauche. Je suis bien contente.
J'apprends pas mal de choses que je ne connaissais pas, des choses très intéressantes, notamment sur les périodes un peu difficiles de sa vie. Et puis la façon dont il travaillait aussi, c'est assez intéressant.
C'était génial. C'était un bel été, c'était un bel hommage.
Quand on est de 7, on a grandi avec, il nous appartient un petit peu. On n'a pas besoin de ce marketing, nous.
Brassens, il est là, il sera toujours là. Hein. Nous, on en parle au moment voulu, quoi.
Quand c'est bien de faire des centenaires. Mais bon, je pense quand même qu'à l'époque où il aurait eu besoin d'un coup de pouce, il n'y avait pas grand monde pour l'aider, quoi.
I lived all by myself, far from the public scene. Contemplative, covert, bucolic and serene. Unwilling to give up the high ransom of fame. Sleeping on my laurels just like a swaddled babe.
Ce jour-là, dans le cabaret du Rock'n'Roll, le chanteur Pierre de Gaillande est en pleine répétition avant son concert prévu dans la soirée. Ce franco-américain a traduit beaucoup de chansons du poète sétois en anglais et la tâche n'a pas toujours été facile.
C'est moins facile de rimer en anglais qu'en français. Ça, c'est un peu une challenge, mais il y a aussi beaucoup de vocabulaire, alors ça aide. Mais pour les expressions, il y a beaucoup de références historiques et ça, c'est fascinant et je continue à apprendre à travers ces textes.
L'anglais, c'est l'une des nombreuses langues dans lesquelles a été traduit Georges Brassens. Il bat d'ailleurs tous les records dans ce domaine, Bernard Longeon.
Brassens a été traduit en 82 langues ou dialectes, ce qui est colossal. C'est le seul à avoir été traduit en autant de langues. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant de refaire les traductions inversées. C'est-à-dire, lorsqu'il a été traduit en anglais, moi j'ai essayé de faire l'exercice, donc de prendre une traduction de Brassens en anglais et de le retraduire en français pour voir comment ont été traduites, par exemple, les expressions qui sont typiquement françaises. Et en fait, elles sont retraduites en expressions typiquement anglaises que l'on ne comprend pas nous-mêmes. C'est totalement innovant, en fait. Il raconte la même histoire, mais de manière totalement différente.
À 7, l'interprète le plus intimement proche de Georges Brassens, c'est Bruno Garnier. Il faut dire qu'il fait partie de la famille et ça s'entend d'ailleurs. Brassens était son grand-oncle.
Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Depuis des années, cet homme aux tendres inflexions méridionales interprète les œuvres de celui qui lui avait offert, alors qu'il n'avait que 11 ans, une superbe guitare fabriquée par l'un des plus grands luthiers français. Et ça, il n'est pas prêt de l'oublier.
J'ai eu du mal à utiliser cette guitare parce qu'elle était vraiment magnifique et j'avais peur de l'abîmer. Pendant 15 ans, on va dire 15 à 20 ans, je ne l'utilisais qu'à la maison. Sur scène, c'était un péché de ne pas l'utiliser. On a le son Brassens avec une guitare Favino modèle Brassens.
Autre voix bien connue des Sétois, celle de Martine Bousquet.
Des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger.
Une femme qui chante Brassens, ce n'est pas très commun de nos jours. Elle dit avoir toujours été accompagnée par ses chansons.
La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi.
Brassens, quand on est enfant, on l'entend parce qu'il est omniprésent à 7. Mais surtout, quand on est enfant, on aime Brassens parce que grâce à lui, on a le droit de dire des gros mots. Ça te permet d'aller sur des terrains interdits. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir appris les chansons de Brassens, mais de les avoir, on pourrait dire, métabolisées, comme ça, j'ai grandi avec.
S'il y a ceux qui chantent Brassens, il y a aussi ceux qui en font des tableaux. C'est le cas de l'artiste contemporain Robert Combas, chantre de la nouvelle peinture figurative. Il habite sur les hauteurs de la ville de Sète et il a baptisé son exposition Robert Combas chante Sète et Brassens. Pour voir ces tableaux de Robert Combas, il faut monter au musée Paul Valéry, tout en haut du Mont-Saint-Clair. Robert Combas expose en très grand format des œuvres très colorées où il réinterprète graphiquement le chanteur-poète.
Robert Combas chante Sète et Georges Brassens. C'est pas prétentieux, quoi. C'est des tableaux qui reprennent les chansons. C'est comme si je le chantais. Ça, c'est Pauvre Martin. Et c'est un tableau qui est un hommage aussi à tous les grands-pères, à tous les autres d'avant. Et donc, ça touche les gens.
Par exemple, là, c'est un Brassens qui aurait vécu 10 ans de plus. Et puis celui-là, c'est le plus réussi pour moi parce qu'il est très mélancolique et blues, il est bleu.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage.
Aujourd'hui à Sète, le souvenir de Brassens est partout. On trouve notamment ses traces dans un quartier où il aimait venir caresser les chats errants.
Nous sommes à la Pointe Courte. C'est un quartier, je ne sais même pas si on peut parler de quartier, c'est une ville dans la ville.
Marie-France Parra, habitante de Sète et qui connaît par cœur la ville et son histoire.
Et là, on est sur la digue de Brassens, elle a été rebaptisée ainsi, parce qu'en fait, c'est de là que Brassens partait avec son petit bateau. Il partait sur la Marocanard, en fait, qui n'est que la lagune de Thau. Pour être tranquille, il allait au bout, là. Au loin, on va voir un rocher. Il amarrait son bateau avec ses copains, et il plongeait, il passait voilà, des après-midi à nager.
Le souvenir de Brassens, c'est aussi l'espace Georges Brassens en face du cimetière où il est enterré. Ce lieu, créé il y a 30 ans, utilise les dernières techniques du son et de la vidéo pour raconter l'histoire du poète. Il accueille tous les ans 50 000 visiteurs. Sylvie Raffard en est l'actuelle directrice.
Là, on est vraiment dans un musée vivant qui fait vivre cette mémoire, qu'on le voit dès qu'il est enfant, tout petit, même on est accueilli par un petit pompon. Et puis ensuite, c'est tout le déroulé de sa vie. Vous avez Brassens qui vous emmène lors de la visite, qui vous parle comme s'il était à côté de vous et qu'il était toujours là.
Et puis c'est en grimpant dans les ruelles étroites du quartier des pêcheurs, resté très populaire, que se trouve la maison où Brassens a vu le jour. La rue porte maintenant son nom. Visite guidée avec la sétoise Danielle Dumontel.
On voit une plaque apposée, voilà, il est né le 22 octobre 1921. Et il habitait donc à l'étage avec ses parents, sa grande sœur, alors que dans les étages en dessous, eh bien, il y avait les grands-parents paternels et les grands-parents maternels. On pouvait taper à toutes les portes, il y avait quelqu'un pour lui répondre qui faisait partie de sa famille.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Une enfance heureuse donc, mais à l'automne 1938, les choses se sont subitement gâtées pour Georges Brassens. Alors qu'il n'a pas encore 18 ans, il se fait prendre la main dans le sac en commettant un vol de bijoux avec une bande de copains. Ils vont tous devoir se cacher, victimes de la vindicte populaire. Brassens passe l'été dans sa chambre, il se fait pousser la moustache, puis il quittera Sète peu de temps après pour Paris. Mais cette affaire de bijoux, elle a terni pendant longtemps ses liens avec sa ville natale, selon Bernard Longeon, spécialiste de Brassens.
Ça crée des relations compliquées pendant une bonne quinzaine d'années. L'affaire se passe au printemps 1939. Il monte à Paris au tout début de l'année 1940. Et il ne reviendra à Sète véritablement libéré qu'à partir du moment où il sera célèbre, à partir de 1953-1954. Il viendra y passer ses étés. Et là, il se rabibochera avec ses copains, avec sa famille, avec les gens, même si il y a encore 10 ans, certains sétois disaient encore du mal de Brassens. Ils parlaient encore du voyou de Brassens.
En laissant courir les voleurs de pommes.
Cette affaire de bijoux, évidemment, c'est de là que tout part. C'est de là que Brassens naît, puisque sa mauvaise réputation vient de là. Et je dirais que sa carrière démarre grâce à l'affaire des bijoux. Car sans cette affaire des bijoux, il ne serait pas monté à Paris au début de l'année 1940, d'autant que la guerre venait d'être déclarée. Ça lui a mis le pied à l'étrier, et probablement que s'il était resté à Sète, à cette époque-là, pendant la guerre donc, il n'aurait pas eu la même vie. Il aurait eu la vie avec des copains, peut-être il aurait pu devenir malhonnête, comme il disait. Cette montée à Paris est probablement le déclencheur de tout, moi je dirais de toute la carrière de Brassens en fait. Elle aurait été probablement un peu identique sur le tard, mais elle n'aurait pas démarré de la même manière. Et probablement qu'il n'aurait pas écrit « La mauvaise réputation »,« Celui qui a mal tourné »,« Je suis la mauvaise herbe », et ainsi de suite.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Aujourd'hui, 40 ans après sa mort et 100 ans après sa naissance, les chansons de Brassens semblent intemporelles, et pas uniquement en raison de la qualité des textes, car on oublie souvent son talent de compositeur. Ses musiques peuvent être reprises, retravaillées dans des styles très différents, explique le guitariste Joël Fabreau. Il avait été l'accompagnateur de Brassens entre 1971 et 1981. Il faisait étape à Sète il y a quelques jours à l'occasion de ce centenaire.
Il nous a livré ses chansons sous une forme tellement simple, tellement dépouillée, qu'il suffit que chacun éclaire un peu à sa façon la musique, mais en tirant parti de ce qu'il y a déjà dedans, qu'il développe un peu des richesses qu'il y a dedans d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, ça donne, avec cet éclairage différent, ça donne aussi d'autres moyens de découvrir des choses dans les chansons de Brassens. Fortement inspiré par le jazz et par les chansons qui étaient elles-mêmes inspirées du jazz. Je pense à Trenet, à tous les autres, Mistraki et tous ces auteurs, ils connaissaient leurs chansons par cœur.
Quant au texte de Brassens, il reste d'une incroyable modernité. Pour la commissaire d'exposition Clémentine de Roudil, ceci s'explique notamment par sa volonté de ne jamais attacher son vocabulaire aux années au cours desquelles il a vécu.
Il a travaillé ses chansons en gommant, on va dire, tout ce qui pouvait avoir un trait à la modernité. Par exemple, il gommait automobile, il disait « mais je ne peux pas dire automobile dans mes chansons ». Et lui, ça, il ne veut pas, comme magnétoscope, alors que par exemple, il est fan des magnétoscopes, il est fan de la nouvelle technologie. Mais la plupart du temps, essayer de dater une chanson de Brassens, c'est impossible. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut les chanter, on pourra les chanter dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois, quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez.
À Sète, sur les traces de Georges Brassens, un grand reportage signé Edmond Sadaka, réalisation Pauline Leduc.
Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.